7, Madame Tillard chez Clément. Tout en Clément était étrange et inexplicable. Son mariage, sa manière de vivre, sa préoccupation des jugements d'autrui à l'égard de son aisance, son affectation à en expliquer l'origine, jusqu'au tressaillement qu'il éprouvait dès qu'on sonnait à sa porte. Si Max réussissait à voir de l'exagération dans la perversité dont son ami faisait parade, il ne parvenait pas aussi aisément à se tranquilliser au sujet du mystère qui en imprégnait, pour ainsi dire, les actions et le langage. Il l'avait revu plusieurs fois et s'était senti plus empêché à l'issue de chaque visite. En d'autres instants, las de conjecturer, il aimait à croire sa pénétration en défaut et se persuadait qu'il n'y avait pas dans l'histoire de Clément autre chose que les détails bien assez scandaleux déjà que celui-ci en racontait. Au reste, il gardait pour lui ses observations et ses doutes. Se flattant peut-être de voir Clément venir un jour à récipiscence, il n'en parlait même jamais que pour en faire valoir l'heureuse transfiguration. Il eut à cause de cela une nouvelle et assez aigre altercation avec De Villiers. Il paraît, dit De Villiers, que vous avez renoué avec lui. Oh, vous ne le reconnaîtriez pas, dit Max, tant il est changé. Serait-il malade? Demanda De Villiers d'un ton sarcastique. Il est marié, il travaille, il vit tranquillement chez lui. Ah, voilà pour combien de temps? Continua De Villiers du même ton. « Ainsi, fit d'Estoy, votre intolérance ne souffre même pas que vous admettiez le repentir. Des gens de cette espèce ne se repentent jamais. »« Qu'en savez-vous ? » répliqua Max, sourdement irrité. « À cet égard, rien ne m'étonnerait moins que de vous prendre un jour en flagrant délit de contradiction. » À quelque temps de là, d'Estoy rencontra Rodolphe qui lui dit « Eh bien, le pactole coule donc décidément chez l'ami Clément. »« Il est plus heureux, je crois, répartit Max. Est-ce ça que tu veux dire ? Y dîne-t-on bien ? Oh, rien n'empêche que tu ailles t'assurer de cela t'avoir toi-même. » Max n'avait pu voir Rosalie qu'après avoir été diverses fois chez Clément. À la vue de cette pauvre femme, il n'avait pas été moins frappé de surprise qu'ému de pitié. Rosalie, eu égard à sa nature de blonde, à ses traits fins et réguliers, à son tempérament froid, semblait destinée à conserver longtemps sa jeunesse et sa fraîcheur. Quand, deux années auparavant, elle resplendissait encore de tous les charmes extérieurs que peut envier une jeune femme, rien ne pouvait donc autant surprendre d'Estoy que de la retrouver pâle, amaigrie, exténuée, prête en quelque sorte à rendre le dernier soupir, et cela sans qu'il fût possible de préciser sa maladie ou seulement son mal. Son œil, autrefois d'un bleu magnifique et d'une limpidité juvénile, était actuellement pâle et s'éteignait. Ses lèvres, dont jadis le rouge vif rappelait la fleur du grenadier, devenait violette et dessinait une ligne sans grâce. Ses cheveux s'éclaircissaient et ne suffisaient déjà plus, en plusieurs endroits, à cacher la tête. On songeait à l'oiseau au moment de la mue, au rosier à l'automne, avec cette différence qu'il ne paraissait pas que la pauvre femme dût jamais reprendre des forces et refleurir. Cependant, la visite de Max, qu'elle accueillit avec effusion, eut momentanément sur elle une influence salutaire. Elle sortit de la torpeur où elle était plongée. Son visage s'éclaira de joie, ses lèvres sourirent mélancoliquement, le sang coula sous sa peau avec plus de vivacité. Sa langue aussi se délia pour causer avec son ami, le questionner avec intérêt sur sa position et lui rappeler certains épisodes du passé. « Vous souvenez-vous de ceci, cher Max ? Vous souvenez-vous de cela ? » disait-elle. Et sa figure respirait un attendrissement mêlé de regrets, et des larmes apparaissaient au bord de ses paupières. Clément les écoutait d'un air dédaigneux ou les raillait impitoyablement de leurs souvenirs. Rosalie parla ensuite de son enfant avec une tendresse passionnée. Son grand regret était de ne pas pouvoir le nourrir. Elle devait se contenter d'en avoir des nouvelles hebdomadairement. Il était en nourrice à Saint-Germain. « Un jour, dit-elle à Destrois, nous irons le voir ensemble. »«
À la bonne heure, dit Clément. Tâche d'aller mieux. Nous ferons tous les trois cette promenade. »
Rosalie, que sa faiblesse habituelle rendait incapable de bouger et qui mangeait à peine, avoua bientôt que depuis longtemps elle ne s'était trouvée aussi bien. Elle eut effectivement la force de faire quelques pas et de s'asseoir à table. Son mari en marqua beaucoup de joie. Il dérida son front et laissa glisser de ses lèvres quelques saillies de son ancien répertoire. Rosalie, qui attribuait le bien-être exceptionnel qu'elle goûtait à la présence de Destrois, épuisa les témoignages de la plus tendre amitié envers lui et le supplia dès qu'il pensa à s'en aller de ne pas tarder à revenir.
« Venez dîner avec nous tous les jours, si vous voulez, » ajouta-t-elle. « Ne vous gênez pas. Ce n'est pas du plaisir, c'est du bonheur que vous nous causerez. »
Clément, avec l'accent de la franchise, confirma pleinement ce que disait sa femme. À dater de ce moment, Max fit de fréquentes apparitions dans cet intérieur. À dire vrai, sa venue qui, dans le principe, agissait si heureusement sur Rosalie, perdit sensiblement de son efficacité. Il crut remarquer que la pauvre femme ne redoutait rien autant que la solitude et que ses nombreuses rechutes provenaient surtout du manque de distraction. Il en parla à Clément. Celui-ci déplorait son impuissance à y remédier. À cause de sa place, il ne pouvait rester auprès de Rosalie plus qu'il ne faisait. Elle était d'ailleurs trop faible pour qu'il songeât à la conduire soit au théâtre, soit à la promenade. Du moins, espérait-il pouvoir prochainement la mettre à même de se distraire sans quitter la maison. En effet, quelques mois plus tard, ayant touché les premiers bénéfices d'une opération commerciale qu'il détailla minutieusement à son ami, il s'empressa de réaliser le plan qu'il avait lentement mûri dans sa tête. Il loua une scène au second d'une maison magnifique, un bel appartement qu'il garnit de meubles neufs, commodes et élégants. Tout en effectuant ses dépenses, il s'accusait de faire des folies et ajoutait qu'au cas de la plus légère déception dans son entreprise, il pouvait se trouver dans les plus graves embarras. Aussi reculait-il devant l'énormité du prix d'un piano, malgré son envie modérée d'en avoir un. Max vint à son aide. Il se mit en rapport avec un facteur qui, à la suite de quelques informations, consentit à lui livrer un excellent instrument en échange de billets payables de trimestre en trimestre. Clément se préoccupa d'abord d'une maîtresse de musique pour Rosalie et Destrois pensa naturellement à Madame Tillard. Son intimité avec cette dernière devenait chaque jour plus étroite. Il en était déjà au moins l'ami le plus aimé. Après s'être concerté avec elle, il la proposa à Clément pour donner des leçons à sa femme. « C'est pas seulement une bonne musicienne, ajouta-t-il, c'est encore une femme charmante, que Rosalie, j'en suis sûr, sera bien aise de connaître. » Clément fit sur le champ une supposition injurieuse à laquelle Max dédaigna de répondre. Il fut ensuite convenu que la protégée de celui-ci viendrait deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, à raison de 5 francs le cachet. Les leçons au début se succédèrent assez régulièrement. Rosalie, sans avoir de grands moyens, s'appliqua avec fièvre à cette étude et y fit des progrès rapides. Malheureusement,
l'état toujours plus chancelant de sa santé la contraignit bientôt de ralentir son zèle, et Madame Tillard ne tarda pas à se trouver fréquemment en présence d'une élève incapable de l'entendre. Les choses en vinrent à ce point que Clément dit à Max « Deux leçons par semaine fatiguent ma femme, elle n'en prendra plus qu'une. Au lieu de celle du vendredi, si cela te convient, tu apporteras ton violon et tu feras de la musique avec ton ami. Je donnerai à chacun de vous un cachet en échange. » À cause de la gêne dont Clément ne cessait pas de se plaindre, Destrois n'accepta pas les honoraires que vaincus par la puissance opiniâtre de Clément et de Rosalie. Madame Tillard consentit volontiers à ces nouveaux arrangements. De véritables soirées musicales devaient prochainement résulter de ces séances intimes. Madame Tillard n'avait traité directement dans aucune de ces négociations. Max, son fondé de pouvoir, l'avait toujours remplacé, et par le fait de l'habitude, il ne l'avait encore désigné que sous le prénom de Madame Henriette. Un matin, Clément, devant sa femme, dit à Max qui déjeunait avec eux « Ah, ça tu nous as pas encore dit le nom de ton amie, la musicienne. » « C'est singulier, » répondit Destrois. Il ajouta aussitôt « Mais c'est Madame Tillard du Cornet. » Ce nom fut un coup de foudre pour le mari et la femme. Tous deux tressaillirent, notamment Rosalie, qui, moins maîtresse d'elle-même, faillit se trouver mal. « Comment ?» s'écria Clément en regardant Max avec stupeur. « La femme de cet agent de change qui a été assassiné ?»« Non, 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 qui s'est noyé, » fit observer Destrois. Là, tout à coup, Rosalie, frappant dans ses mains, éclata de rire, mais d'un rire forcé et convulsif, tandis que son mari, l'air hébété, reprenait précipitamment. « Oui, oui, c'est ce que je voulais dire, noyé. On l'a repêché, si je ne me trompe, dans les filets de Saint-Cloud. »« Est-ce que tu l'as connu ?» demanda Max. « Parbleu !» fit Clément, qui recouvra subitement son sang-froid. « Juge toi-même, si j'ai lieu d'être surpris. » Tillard du Cornet est précisément l'agent de change chez lequel j'ai été garçon de recette. « Effectivement, » dit Max stupéfait à son tour, « la rencontre est on ne peut plus étonnante. » « Et je riais, » dit Rosalie, « en songeant combien la fortune est drôle. Voici une femme qui jadis n'eut pas voulu de moi pour sa femme de chambre et qui est aujourd'hui ma maîtresse de piano. » Destrois, qui ne s'était pas aperçu que Rosalie fut vindicative, ne put sans étonnement l'entendre parler ainsi. « Oh, le fait est, dit Clément, en chérissant sur sa femme, que ce jeu de bascule a quelque chose de comique. » Max fut d'avis que, par ménagement pour Madame Tillard, loin d'ébruiter cette circonstance, il fallait la tenir dans le plus profond secret. « Ah, c'est justement ce que j'allais te dire !» répliqua Clément. 8. Singulière préoccupation de Rosalie. De haute taille, la tête couronnée de cheveux d'un blanc de neige, avec des yeux et d'épais sourcils noirs qui se détachaient sur la pâle figure comme des caractères arabes sur un vieux parchemin, il eût été impossible de rêver à l'hôtel un officiant plus rempli de majesté. L'impression, à dire vrai, ne se maintenait pas à cette hauteur dès qu'on l'abordait et l'entendait causer. Commis aux soins par décision épiscopale, c'était la chronique dans la maison Clément de remanier de fond en comble les 12 volumes d'un bréviaire ou paroissien, peu importe. Il avait consacré 20 années de sa vie à cette vaste compilation, et dans ce travail qu'il avait astreint à une vie sédentaire, voire à une sorte d'immobilité automatique,
Il avait gagné toutes les infirmités navrantes qui déparaient son extérieur imposant. Outre qu'il était l'homme du monde le plus distrait, une paralysie partielle de la langue occasionnait parfois sur ses lèvres un bégaiement intolérable. Il fallait parler haut pour se faire entendre de lui, et sa myopie était extrême. Un catarrhe, des rhumatismes, la goutte se saisissaient de sa personne à tour de rôle et la laissaient rarement en repos. À cela près, sa simplicité d'enfant, sa candeur, sa bonté inaltérable en faisaient vraiment un ange. Il raffolait de musique, jouait de la basse et, quoiqu'il jouât faux, était très bon musicien. Clément, chez lequel semblait décidément affluer l'argent, ne se bornait pas à donner de temps en temps à dîner. Il achetait encore, à l'instigation de Max, un quatuor d'instruments archets et toute la musique de Haydn, de Mozart et de Beethoven pour ces quatre instruments, ainsi que des trios et des quintettes avec accompagnement de piano. À certains jours où, à côté de Rosalie, n'était admis à titre d'auditeur que Madame Ducornet et Monsieur du Rozoir, l'abbé Ponceau venait discrètement prendre un violoncelle et faire de la musique avec Madame Tillard et d'Estrois. Outre cela, en l'absence du digne chanoine, à qui son caractère interdisait des réunions plus nombreuses, Clément fondait de quinzaine en quinzaine une soirée où, avec l'aide de trois ou quatre musiciens recrutés par Max, on exécutait toutes sortes de musiques de chambre. L'exécution, sans être irréprochable, était parfois assez bonne pour satisfaire même un juge difficile. Le nombre des auditeurs augmentait insensiblement. Madame Tillard et sa mère, Monsieur du Rozoir, d'Estrois, Rodolphe et quelques autres formaient déjà le noyau d'une société qui allait se développer et s'étendre jusqu'à faire la maison trop petite. Bien des témoins des dites séances musicales ne se gênaient pas pour en parler au dehors, et dans le milieu où avait précédemment vécu Clément, où il avait été vilipendé, regardé comme le plus abject des hommes, d'où finalement il avait été ignominieusement repoussé, chassé, circulaient mille détails à sa louange qui donnaient grandement à réfléchir. Celui que, d'une voix presque unanime, on avait été jusqu'à proclamer un misérable passible de la cour d'assises, dépouillait peu à peu, aux yeux même de ses plus implacables accusateurs, ses souillures, ses sentiments crapuleux, ses travers, ses vices, ses fautes, et cessait d'être criminel et répugnant pour devenir un personnage digne de considération. Avec des gradations ménagées, pour sauvegarder les apparences, on allait actuellement à sa rencontre. Il n'apercevait plus que des visages avenants et gracieux. Il trouvait chaque jour quelque nouveau nom chez son concierge. On l'accablait littéralement d'offres de services. Il ne devait pas tarder enfin à être effrayé du chiffre de ses amis et à se voir contraint d'en consigner à la moitié à sa porte. Cependant, la pauvre Rosalie ne se rétablissait pas. Sa vie continuait d'être une alternative régulière de convalescence et d'agonie. Sur les instances des deux époux, quand Clément était à son bureau, d'Estrois venait la voir fréquemment dans la journée. Il la trouvait quelquefois calme, mais le plus souvent sous l'empire d'un morne accablement. Il fut un jour bien surpris de l'objet de ses préoccupations. Son abattement était plus fort que de coutume. Elle semblait la proie de rêveries funèbres. Max essaya quelque temps, sans y réussir, de l'arracher à cet état douloureux. Enfin, relevant la tête et attachant sur son ami de longs regards mélancoliques, « Croyez-vous, « cher Max, lui dit-elle d'une voix altérée, qu'il y ait un Dieu ?» D'Estrois l'examina avec étonnement. « Oui, fit-il, je le crois. »
Et après la mort, pensez-vous qu'il y ait quelque chose?
L'étonnement de Max devenait de la stupeur. Je ne saurais concevoir, dit-il, comment périrait l'âme d'un corps qui ne doit subir qu'une transformation.
Ah, ainsi, il se pourrait qu'il y eût des châtiments.
La question était embarrassante. En trois mots, Rosalie en disait plus qu'il n'en faut pour déconcerter 1000 sages personnes qui ne sont point pénétrées de la science péremptoire des théologiens. D'Estoy balança à répondre, de l'air d'un homme que la crainte des sarcasmes intimide. Je crois, dit-il enfin, qu'il est des lois morales, comme il en est de physique, et de même que si ces dernières étaient troublées, il en résulterait infailliblement un désastre, je suis convaincu qu'on ne peut enfreindre les autres sans qu'il s'en suive, dans le monde de l'esprit, un malaise qui, pour cesser, exige une expiation.
Mais enfin, cette expiation est-elle individuelle?
Dit Rosalie de plus en plus inquiète. En même temps qu'elle est individuelle, repartit Max, tous les hommes en souffrent à un degré quelconque. Rivés à la même planète, englobés dans la même atmosphère, quoi que nous fassions, notre solidarité en toutes choses est permanente et fatale, dans les joies comme dans les douleurs, dans les bonnes actions comme dans les mauvaises.
Ah, tout cela ne me dit pas ce que je voudrais savoir, fit Rosalie et avec une sorte d'impatience. Moi, par exemple, en supposant que j'ai commis de grandes fautes, souffrirai-je après ma mort?
Ah, est-il donc si ridicule de penser, répliqua d'Estoy, qu'au cas où la somme de vos douleurs ne sera pas adéquate à celle de vos péchés, vous rajeunirez dans la mort pour continuer l'expiation?
Oh, qu'importe, dit précipitamment Rosalie, si je perds le souvenir de ma vie antérieure.
En souffrirez moins, vous, pour ignorer la raison de votre supplice, dit Max. Au reste, reprit-il, dans l'existence qui embrasse ses crimes, il est au moins douteux que l'homme ne subisse pas en partie son châtiment. Admettez seulement qu'il ait une famille. La seule pensée de transmettre à ses enfants un héritage de malheur n'est-elle pas suffisamment effroyable?
Oh, hélas, hélas, fit Rosalie, qui se cacha la tête dans ses mains et éclata en sanglots. D'Estoy, bien que tout cela lui parût singulièrement étrange, ne voulut voir dans cette explosion de chagrin que l'effet de scrupules outrés.
Peu après, Clément revint de son bureau. Accoutumé de longue date à voir les sombres tristesses de sa femme, il ne prit pas même garde à la trace de ses larmes récentes. Au surplus, il était préoccupé. D'un ton sarcastique et en termes injurieux, il déclara qu'il communiait le lendemain et conseilla à sa femme, puisqu'aussi bien sa faiblesse la dispensait de cette ignoble comédie, de se confesser au moins plus souvent qu'elle ne faisait.
Rosalie, pour la première fois peut-être, ne cacha point son affliction de l'entendre parler avec cette irrévérence.
« Quoi, qu'est-ce ? » fit Clément avec une colère hautaine. « Les lieux communs de l'abbé auraient-ils fait impression sur toi ? N'oublie pas, ajouta-t-il avec une énergie effrayante, que je ne veux même pas de l'ombre d'un tiers ou d'une pensée entre nous deux. Plutôt que d'être à la merci d'un prêtre, je préférerais subir le dernier supplice. »
Max penchait la tête d'un air soucieux. « Serais-tu jaloux d'un vieillard ? » demanda Rosalie en s'efforçant de sourire. Loin de protester contre cette façon d'interpréter sa colère, Clément se calma tout à coup et changea brusquement de conversation. Il était rare qu'un jour s'écoulât sans être marqué par quelque incident nouveau. Ainsi, dans la même semaine, D'Estrois, se trouvant auprès de Madame Tillard, légèrement indisposée. Il paraît, lui dit celle-ci, que votre monsieur Clément a été jadis commis dans notre maison. Alors, comment l'avez-vous appris ? Demanda Max curieusement. Par Frédéric, dit Madame Tillard, qui est allée prévenir Madame Rosalie de mon indisposition. Elle ajouta que le vieillard avait rapporté les plus pénibles impressions de cette visite. Clément, troublé d'abord en l'apercevant, s'était bientôt montré envers lui aussi expansif qu'il venait d'être réservé. Il ne s'était pas borné à lui faire voir son appartement. Il avait encore prétendu lui raconter son histoire, jusque dans les plus minimes détails. Elle avait obligé d'examiner ses livres sous le prétexte de lui demander s'ils étaient bien tenus. Frédéric avait été d'autant plus frappé de ce dernier souci que lesdits livres annonçaient un comptable de premier ordre. En dépit de son aisance, de sa vie laborieuse et de sa dévotion, Clément, avec sa figure ravagée, ses yeux hagards, ses manières ambiguës, n'avait inspiré au vieillard ni confiance ni sympathie. Celui-ci allait jusqu'à s'affliger, sans trop savoir pourquoi, il est vrai, des relations de Madame Tillard avec ce sinistre personnage. « Pour ma part, continue Madame Tillard, je suis désolé de n'avoir pas su le fait plus tôt. Sans fausse fierté, j'eusse probablement refusé d'aller dans cette maison, et j'eusse sagement fait. Il faut bien vous le dire, si Madame Rosalie m'inspire de la compassion, j'ai à l'endroit de son mari des sentiments analogues à ceux de mon vieux Frédéric. Il me cause une répugnance que je ne puis réussir à surmonter. » Le lendemain même de ce jour, D'Estrois alla chez Clément, qui le reçut avec humeur. « Es-tu fou ? » s'écria-t-il. « Comment ? Tu vas t'amuser à catéchiser Rosalie. Mais à quoi penses-tu ? Qu'avais-tu besoin de lui dire qu'il y a un Dieu, une vie éternelle, des châtiments et le reste ?»« J'ai répondu à ses questions, » dit Max. « Voilà tout. » « Il fallait alors lui répondre, » dit Clément avec énergie, « qu'il n'est de Dieu que pour les idiots, que la mort c'est le néant, que les châtiments et les récompenses sont des inventions saugrenues de l'homme. »« Mais à cause de quoi ?» fit Max interdit. « Tu veux pas, j'imagine, apporter le trouble dans mon ménage ?» répliqua Clément d'un trait. « Voilà maintenant que Rosalie ne me laisse de repos ni jour ni nuit. » et me fatigue de tous ces rabâchages. Oh, j'attends de toi un service. Quel est-il ? Il faut que tu défasses ton ouvrage, que, par insinuation, tu étouffes dans l'esprit de ma femme la mauvaise graine que tu y as semée. Oh, je ne puis faire cela, dit Max fermement. Ainsi donc, s'écria Clément furieux, il faut, parce que cela te plaît, que je souffre, moi, que je sois crucifié pour des opinions sur lesquelles je crache. Je te promets seulement, repartit D'Estrois, d'éluder les questions de Rosalie s'il arrive qu'elle me questionne de nouveau là-dessus. Eh bien d'accord, dit Clément. Tu souffriras en outre, sans souffler, que je la raille devant toi de ces sottes visions. Ils parlèrent ensuite du vieux Frédéric. « Que fait-il ? » demanda Clément. « Il est donc au service de ton ami ?»« Ah ! » fit D'Estrois avec enthousiasme. « Ce vieillard est réellement admirable. 45 ans de ses années, il en a 60, ont été comblés par le travail. La perte totale de ses économies à la mort de son patron ne lui a pas arraché une plainte. Il ne s'est préoccupé que de Madame Ducornet et de sa fille. » Il les a contraintes d'accepter ses services et s'en est constitué de serviteurs presque de force. Il se tient toute la journée à la disposition de Madame Tillard. Non content de cela, il emploie les 2/3 peut-être de ce qu'il gagne le soir à tenir des livres au soulagement des 2 femmes. « Oh, c'est un vieillard imbécile !»
fit sur-le-champ Clément d'un air de dédain suprême. 9. À la campagne. Il y avait environ 4 mois que Rosalie n'avait vu son enfant. Elle en parlait sans cesse, elle se mourait de l'envie de l'embrasser. Dans ce désir chaque jour plus vif, elle puisa passagèrement quelques forces. Il fut convenu, un samedi soir, entre elle, son mari et Max, que le lendemain, ils iraient tous trois à Saint-Germain. À en juger par les dispositions de la pauvre femme au départ, il eût été difficile d'augurer mal du voyage. Le contentement agissait sur Rosalie au point de ramener sur sa figure des apparences de santé. La rapidité du convoi, le grand air, les panoramas pleins de soleil qui défilaient sous ses yeux, accumulaient en elle une impression sur impression et la plongeaient dans le ravissement. Le sang colorait ses joues pâles, ses yeux brillaient de plaisir et éclairaient tout son visage. Elle semblait décidément renaître. Son mari épiait les progrès de cette transformation d'un air d'intérêt non équivoque et en marquait une vive joie, ce qu'il faisait, comme toujours, au moyen de plaisanteries d'un goût contestable. D'Estrois, de son côté, observait ces détails avec plaisir et y voyait les présages pour Clément et sa femme d'une journée exceptionnellement calme et heureuse. Chose surprenante qui troubla profondément D'Estrois, ce qui, dans sa pensée, devait compléter le bonheur de ses amis et l'étendre, y mit brusquement un terme. Tout en Rosalie s'effaça d'abord devant l'amour maternel. À peine eut-elle passé le seuil du domicile de la nourrice que, courant au berceau de son fils, elle saisit l'enfant dans ses bras et le couvrit de caresses et de larmes. Elle l'envisagea ensuite avec une curiosité fébrile, comme pour juger de sa mine et de sa croissance. Le jour de la fenêtre tombait en plein sur l'enfant. L'examen auquel se livrait la mère produisit instantanément sur elle l'effet d'une catastrophe. Elle redevint pâle. Son œil s'ouvrit outre mesure. La consternation puis l'épouvante se répandirent sur son visage. Clément, lui aussi, perdait soudainement sa gaieté. Il regardait cette scène, le front plissé, les sourcils joints, l'air morne et plein d'inquiétude. Max comprenait d'autant moins ce qu'il voyait que l'enfant, qui pouvait avoir 15 mois, outre qu'il était d'une beauté remarquable, paraissait pour son âge doué d'une force peu commune. Il avait les joues et les lèvres roses, de grands yeux noirs, les sourcils arqués, qui semblait dessiné avec un pinceau, et par-dessus cela, d'épais cheveux bruns, soyeux et bouclés, qui rehaussaient encore la blancheur éclatante de son teint. « Regarde !» fit tout à coup Rosalie d'une voix éteinte en présentant l'enfant à son mari. Clément le prit dans ses bras et considéra attentivement ses traits. Il le rendit presque aussitôt à la mère avec des marques de doute et de terreur. « Ton obstination n'est pas raisonnable, » balbutia-t-il en détournant la tête. « Je te jure que tu te trompes. » Et il se mit à mesurer la chambre à grands pas. « Il est bien mignon, » disait la nourrice avec un attendrissement affecté. On en fait ce qu'on veut. S'il ne rit jamais, il ne pleure pas non plus. Quand il a ce qu'il lui faut, il ne bouge pas plus qu'un terme. On dirait qu'il réfléchit. L'enfant, pendant ce temps-là, regardait alternativement son père et sa mère d'un air glacial et ajoutait ainsi à leurs angoisses. Clément parut incapable de supporter plus longtemps le poids du regard de son fils. « Voyons, la mère, » dit-il d'un ton impérieux à la nourrice, «
Prenez l'enfant, tandis que nous irons faire un tour dans la forêt. »
Rosalie adressa à son mari un regard rempli de mélancolie et de découragement.
« Bon !» fit Clément en haussant les épaules. « Sortons !»
Durant la promenade, Clément, en apparence maître de lui-même, essaya plusieurs fois de rompre un silence pénible. Mais ni Rosalie plongée dans une invincible prostration, ni Max sous l'empire d'impressions puissantes ne le secondèrent. Ce n'était plus seulement l'étonnante pantomime de Clément et de sa femme à la vue de l'enfant qui troublait les trois. À quoi cela se joignait pour le bouleverser les remarques que lui avait suggérées l'observation attentive de ce même enfant. Au fond de son souvenir gisait une physionomie identique à celle du fils de Rosalie. Où l'avait-il vue? C'est ce qu'il ne pouvait se rappeler. Puis cet enfant ne ressemblait nullement ni à son père ni à sa mère. Il n'avait pas seulement une chevelure d'un noir de jais, quand Clément et Rosalie avaient des cheveux qui tiraient sur le blond, il avait encore des traits qui leur étaient totalement étrangers. Outre cela, ce qui frappait bien davantage, sa jolie figure n'annonçait ni sensibilité ni intelligence. Elle conservait, même sous les plus tendres caresses, l'impassibilité de l'idiotisme. Les agaceries de sa nourrice n'étaient pas parvenues à le faire sourire. Ses lèvres étaient restées closes, comme son cœur semblait muet. Il s'était borné à examiner opiniâtrement son père et sa mère avec une indifférence stupide. Destroy, qui aimait beaucoup les enfants, avait ressenti insensiblement une telle froideur à l'examen de celui-ci qui ne m'avait pas même songé à l'embrasser. 20 sensations l'avaient assailli graduellement, et sa curiosité à un moment assoupie au sujet du mystère qui pesait sur l'existence de Clément s'était réveillée avec une intensité nouvelle. Après avoir dîné dans une guinguette, ils retournèrent chez la nourrice. L'enfant dormait. Clément ne voulut pas qu'on le réveillât. La mère se contenta de le baiser au front et de le mouiller silencieusement de larmes. Clément oublia de le caresser tant il avait hâte de quitter cet intérieur. En gagnant la voiture, Max l'entendit qui disait à Rosalie « Mais pourquoi te faire tant de mal ?» Avec le temps, il changera sûrement de visage. Je ne vois d'ailleurs dans cette ressemblance que l'effet d'un hasard, comme il y en a tant. » Rosalie secoua douloureusement la tête. Cette journée, qui au départ promettait d'être si joyeuse, s'assombrit tout à coup, comme on l'a vu, puis se termina d'une façon lugubre. Fatiguée par le voyage, déçue dans son amour de mère, sous le poids de lourdes et cruelles pensées, Rosalie fut à peine de retour dans sa maison qu'elle eut des spasmes suivis d'un long évanouissement. Il en fut de sa nouvelle convalescence comme moment on avait pu croire sérieuse comme des autres. Ses anciennes faiblesses la reprirent. Les instants de répit que de temps à autre lui laissa encore son mal furent plus que jamais illusoires. Son état maladif empira chaque jour plus ostensiblement. 10. Soirée musicale. Clément donna une grande soirée sans troubler l'ordre de ses soirées habituelles. Depuis plusieurs années, Rodolphe, jetant sa gourme, comme on dit, racontait en style de précieuse au Madame Petit Journal les menus détails de sa vie intime. Dans ses feuilletons, Rodolphe, qu'on eût pu surnommer le bas de cuir de la pièce de 100 sous, tant il passait de temps et dépensait d'adresse
à la chasse de ce gibier métallique, s'il jugeait le privilège de s'y moquer de lui-même et des autres avec infiniment de grâce et d'esprit. Il y avait fête chez bien des gens le jour où le nom de Rodolphe rayonnait à l'un des angles du petit journal. Cependant, un dramaturge fort habile, quoique jeune, avait eu l'idée, à l'instigation d'un tiers, de compiler les feuilletons de Rodolphe, d'en trier les plus amusants personnages, d'en extraire les dialogues, d'en pressurer l'esprit et d'infuser le tout dans les cinq actes d'une intrigue plus ou moins attachante. Cette sorte de bouillabaisse dramatique venait d'avoir un éclat sans succès. C'était en l'honneur de cet événement que Clément organisait une fête à laquelle il conviait autant de personnes que son salon, agrandi de sa salle à manger et du cabinet où il travaillait, pouvait en contenir. Au moment où Destrois arriva, la réunion était déjà nombreuse. Il présenta à Clément deux ou trois musiciens de ses amis, entre autres un pianiste, dont les improvisations pleines de mérite et quelques morceaux gravés promettaient un compositeur, et Max fut soudainement frappé de surprise. Levant les yeux sur un groupe, il venait d'apercevoir De Villiers lui-même causant avec Rosalie et lui faisant sa cour avec empressement. Pour le distraire des pensées pénibles qui l'inquiétèrent en cette occasion, il ne fallait pas moins que le plaisir de regarder Madame Tillard, auprès de qui se tenaient Madame Ducornet et le vieux Frédéric, et la curiosité de passer en revue la physionomie des invités. Près de la cheminée, accolée au marbre, se tenait Monsieur Durosoir, le juge d'instruction. Invariablement habillé de noir et en cravate blanche, il avait reçu le surnom de Spectre, sans doute à cause de sa grande maigreur, de son teint jaune, de son petit œil gris invisible, de ses airs mystiques et de sa voix sépulcrale. Quoique parlant avec lenteur et s'arrêtant quelquefois au milieu d'une phrase, comme s'il eût été bègue, ce qui provenait d'une certaine difficulté d'élocution, toujours est-il qu'il savait intéresser et émouvoir, notamment dès qu'il daignait entrer dans le détail des instructions qu'il avait faites. Il causait alors avec un poète chez lequel une aptitude décidée pour les spéculations les plus ardues n'excluait pas une poésie solide, chaude, colorée, essentiellement originale et humaine. Destrois compta encore quelques artistes et gens de lettres et plusieurs femmes qu'il voyait pour la première fois. Au reste, la porte du salon ne discontinuait pas de s'ouvrir et d'encadrer de nouvelles figures. Le héros de la fête n'avait pas encore paru. Une rumeur l'annonça. Il vint en compagnie d'une dame, laquelle, malgré la blancheur de sa peau et ses traits réguliers, rappelait bien plutôt une belle écaillère que ce que l'imagination entrevoit sous le titre de duchesse. Elle pouvait d'ailleurs avoir 35 ans. Elle était de la famille des Tours par l'opulence de ses formes. Sa robe décolletée, en velours grenat d'une fraîcheur contestable, devait avoir servi à bien des marguerites de Bourgogne avant de tirer l'œil des chalands du temple. Elle avait aux oreilles, au cou, à la ceinture, au poignet, au moins 2 livres pesants de bijoux en chrysocale ou en pierre fausse. À ses cheveux bruns, dont les myriades de vrilles pendillaient de chaque côté des tempes, étaient artistement mêlés à la fois un double cordon de perles, un léger feuillage, une grappe de raisin blond, des roses naines, des cerises et une tulipe panachée de blanc et de violet, dite veuve, de telle sorte que sa tête ressemblait à un verger en miniature. Il faut croire que Clément avait ouï parler des locution peu académique à l'usage de cette grosse personne, car il ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il courut au devant de Rodolphe d'un air effrayé et lui dit précipitamment à voix basse, du ton de la menace, « Mais perds-tu la tête de m'amener cette créature ?» Je te déclare que je ne souffrirai pas la plus légère inconvenance, et que si elle a le malheur d'ouvrir la bouche, j'affirmerai aux gens curieux de la connaître que tu es marié avec elle. »
Rodolphe se le tint pour dit. Il rejoignit sa dame, la prit par la main, la présenta à Rosalie, la conduisit ensuite à un fauteuil et s'assit à côté d'elle.
« Douce amie, lui dit-il à l'oreille, mais assez haut pour que Max entendît, je suis jaloux plus qu'un tigre du Bengale, jaloux à faire comme Othello pour un simple regard. Daignez donc tirer le verrou sur vos lèvres et conservez pour moi tous les trésors de votre conversation. Si quelque renard a friolé par les raisins de votre tête, venait à rôder aux alentours, gardez-vous bien d'imiter le corbeau et d'ouvrir votre joli bec, sinon je vous répudie comme une messaline, si je vous étouffe comme une Desdémona. » La reine de théâtre sourit, regarda Rodolphe en coulisses et agita sa tête, qui rendit un son comparable à celui de feuilles sèches secouées par un vent d'automne. Là-dessus, Rodolphe, un peu rassuré, se leva, pirouetta sur ses talons et dit à Max « Décidément, Clément vise au prix Montillon ou peut-être couronne et rosière. » Rosalie, au milieu de l'affluence de personnes qui s'empressaient autour d'elle, avait le visage riant et semblait heureuse. Sous une robe en satin bleu clair, garnie de dentelles aux épaules, au corsage, aux manches et à la jupe, à cause de sa pâleur maladive, de son œil voilé, de ses lèvres blanches, elle faisait songer aux peintures ascétiques de Le Sueur. À côté d'elle brillait l'or de la reliure d'un album magnifique, vierge encore du crayon et de la plume. Son mari, qui n'avait rien tant à cœur que de la distraire, le lui avait offert le matin même en l'invitant à profiter de la soirée pour le faire couvrir d'illustrations. Rodolphe le premier, dont naturellement elle mit l'obligeance à l'épreuve, s'exécuta de bonne grâce et écrivit sur l'un des feuillets ce passage destiné sans doute à l'une de ses prochaines nouvelles. Cette pure colombe s'est laissée fasciner par le regard vainqueur d'un farouche Milan avec qui elle plane dans les régions bleues d'un platonisme transcendant. La complaisance de Rodolphe porta bonheur à l'album qu'on se passa de main en main et qui, en moins d'une heure, s'enrichit de toutes sortes d'autographes. M. du Rozoir, encore sous l'influence d'une discussion fort vive sur les romans, mit son nom à la suite de cette pensée, ou mieux, de cette boutade. Les romanciers sont des brouillons qui tendent incessamment à déplacer l'axe de toute chose. Deux ou trois feuillets plus loin s'épanouissait cette opinion d'un critique à qui Clément avait fait voir l'ébauche sur panneau d'une résurrection qu'on attribuait à Jouvenet. On pourrait dire de Jouvenet qu'il peint au courant du pinceau, comme on dit d'un calligraphe, qu'il a une belle écriture courante. Après un autographe musical du pianiste, consistant en un canon à trois voix qui, lu à rebours, produisait un deuxième morceau parfaitement régulier, le poète dont il a été parlé transcrivit ce sonnet de mémoire. « Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire? Que diras-tu, mon cœur, cœur autrefois flétri, à la très belle, à la très bonne, à la très chère, dont le regard divin t'a soudain refleuri? Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges. Rien ne vaut la douceur de son autorité. Sa chair spirituelle a le parfum des anges, et son œil nous revêt d'un habit de clarté. Que ce soit dans la nuit et dans la solitude, que ce soit dans la rue et dans la multitude, son fantôme en dansant marche comme un flambeau. Parfois il parle et dit « Je suis belle et j'ordonne que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le beau ».
Je suis l'ange gardien, la muse et la madone. » Finalement, Rosalie n'eut qu'à se louer de la bienveillance avec laquelle poète, peintre, musicien, etc., alternèrent sur son album la prose, la vers, les croquis et les spécimens de calligraphie musicale. Pendant ce temps-là, Rodolphe, sautillant, communiquait sa gaieté aux personnes les plus graves. Ayant avisé un confrère capable de lui donner la réplique, il convertissait sa langue en raquette et jouait au volant avec des mots et des concetti. Il adressait en outre des madrigaux à toutes les femmes, notamment à la dame aux raisins dorés, qui buvait, mangeait, riait, branlait la tête, mais ne soufflait mot. De temps à autre, on cessait de causer pour entendre soit un quatuor, soit un trio, soit une sonate pour piano, violoncelle ou violon, soit un morceau de chant. Le pianiste, à son tour, avec cette bonne grâce et cette discrétion que ne connaissent point les plates médiocrités, qui finissent par ne plus finir après s'être laissé implorer comme des demi-dieux, se mit au piano sans se faire prier et joua à la demande d'un groupe quelques-unes des romances sans parole de Mendelssohn. Monsieur du Rozoir, dont on se plaisait à provoquer les souvenirs, s'interrompit et prêta l'oreille à ces suaves et nébuleuses compositions. Aux prises avec une mélancolie croissante, Max, auprès de qui Clément était venu s'asseoir, s'absorbait de plus en plus dans la contemplation de Madame Tillard, dont la splendide beauté empruntait un nouvel éclat à la profusion des lumières et à l'atmosphère musicale qui l'enveloppait. Il semblait que d'Estrois connût l'envie et qu'il souffrit de n'avoir point à mettre aux pieds de cette femme adorable une gloire analogue à celle de son ami Rodolphe. Animé d'une joie amère et méchante, Clément, qui, selon l'ordinaire des gens systématiquement corrompus, prétendait aux propriétés des maladies contagieuses, ne perdait pas une si belle occasion de distiller sa philosophie méphistophélique. Il voulait voir dans le spectacle qu'il avait sous les yeux une preuve éclatante de ses théories. D'un air et d'un accent où se révélaient ses sentiments odieux, il passait la revue des convives et imaginait, la chose la plus vaine, que les misères et les joies étaient réparties sur la tête de chacun d'eux, à tort et à travers, avec la plus parfaite injustice. Il en vint à Rodolphe, dont rien à ses yeux ne justifiait la bonne aventure, puis à cette grosse bourgeoise, informe et sans esprit, mère de famille, qui, dans l'oubli de ce qu'on appelle ses devoirs, trouvait mille caresses pour son imbécile vanité. « Te paraîtrait-elle digne d'envie ?» interrompit d'Estrois avec impatience. « En attendant, répliqua Clément aussitôt, les hautes qualités de ta Madame Tillard n'ont déterminé que son martyr. » Max haussa dédaigneusement les épaules. « Faut-il donc ?» continua Clément, blessé au vif, « que je te parle encore de Rosalie et de moi ? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. J'aurai de l'argent et je deviendrai un personnage. Me suis-je trompé ? J'ai l'estime, voire l'amitié d'hommes considérables. Des magistrats, des prêtres fréquentent ma maison. J'ai des amis et des flatteurs à ne savoir qu'en faire. Je deviens estimable aux yeux même de ton ami de Villiers, lequel, entraîné par le courant, ne daigne plus de venir chez moi. Je pourrais mener ma femme dans les plus respectables familles avec la certitude de l'y voir bien accueillie. Cependant, pauvre Max, au point de vue de vous autres gens honnêtes, je ne sais pas vraiment s'il est au monde de créatures plus viles que nous. Le mystère et l'hypocrisie sont nos seuls talismans. Avec l'horrible fait que j'ai sur la langue,
Je produirais ici plus d'épouvante que ne ferait l'éboulement d'un plafond. »
Il se rapprocha de Destoy et poursuivit d'une voix plus basse. « Rosalie n'a pas toujours été timorée, comme tu la vois actuellement. Profitant de sa nature de cire, je l'avais pétrie et boulée exactement sur moi. À un moment, je l'ai connue avec une incrédulité plus robuste que la mienne, et capable de me prouver qu'en fait de mal, je n'étais qu'un enfant. Il faut remonter à l'époque où j'allais être contraint d'entrer chez Tillard du Cornet. Nous demeurions alors dans un hôtel misérable de la rue de Bussy, objet de dégoût et de réprobation. Le corps brisé par des courses stériles, j'avais en pure perte rempli 20 lettres de récits navrants et de prières. De mon imagination pressurée dans tous les sens, je ne parvenais plus à extraire même l'apparence d'un expédient. Grelottant de froid et mourant de faim, Rosalie et moi nous regardions avec désespoir. Tout à coup surgit simultanément en nous l'idée d'une ressource infernale qui, à cette heure encore, me cause un frisson mortel. Bon, je ne prends pas plaisir à te scandaliser. En présence de ce que nous paraissons, je ne songe qu'à te faire voir ce que nous sommes. Par ma fuite, Rosalie eut ses coups des franches, qu'ajouterai-je de plus. Ah, ta pâleur, je vois que tu comprends. Nous mangeâmes ce soir-là, mais seulement ce soir-là. Il en résulta pour nous un supplice, des inquiétudes tellement intolérables que tout en étant d'accord sur ce point, qu'il n'est de malhonnête et d'infâme que la misère, nous dûmes aussitôt renoncer à cet exécrable commerce. Max, la tête penchée dans une immobilité de pierre, étouffait et suait de terreur. Ce qu'il venait d'entendre était en même temps pour lui un trait de lumière. Il était enfin convaincu de connaître la source des remords qui empoisonnaient l'existence de Rosalie et en faisaient une agonie permanente. Et il se sentait pris d'une incommensurable pitié pour cette malheureuse qui, au moins, avait conscience d'une dégradation que son mari confessait avec une aussi révoltante impudence. 11. Étrange intermède. Cependant, dans le salon, il se produisait peu à peu un silence motivé qui contraignait décidément Clément à se taire. Bien des éclaircies se remarquaient déjà parmi les invités. Rodolphe et sa dame, De Villiers et nombre d'autres avaient disparu, si bien que la foule de tout à l'heure se réduisait actuellement à environ une 20aine de personnes. Le pianiste, pour avoir fermé le cahier des romances sans parole, n'en restait pas moins au piano sur lequel il préludait. Son auditoire était allé grossir, celui qui faisait cercle autour du juge d'instruction. La voix de celui-ci, lente et grave, s'élevait graduellement en raison même du bruit décroissant des conversations particulières et dominait à la fin jusqu'au plus léger chuchotement. Elle parvenait ainsi jusqu'aux oreilles du pianiste, lequel, étouffant les cordes avec les sourdines et s'effaçant sans y songer dans une harmonie nuageuse, prêtait une attention croissante au récit de M. du Rozoir. « On vante beaucoup trop, selon moi, disait le magistrat, l'habileté de nous autres juges d'instruction et celle des agents placés sous nos ordres. Réduisant à nos seules forces, nous serions bien souvent dans l'impuissance de réunir les éléments nécessaires au prononcé d'une condamnation. Quoi qu'on dise de la maladresse incurable des criminels, je vous jure qu'ils s'en rendent compte, qu'ils mettraient en défaut même des esprits bien autrement perspicaces que ne le sont les nôtres. Il y a tel de ces gens-là qui a quelquefois du génie en son genre. » Ce début frappa Clément de stupeur. Il tressaillit,
comme l'homme qu'on tire brusquement d'un demi-sommeil, et fixa sur le juge des yeux remplis d'anxiété. « Ma longue carrière et mon expérience me permettent d'affirmer, continua M. Durosoir, que malgré une police exemplaire, bien des crimes resteraient impunis, n'étaient, il faut lâcher le grand mot, l'intervention des hasards providentiels. Entre des preuves multipliées de ce que j'avance, je choisirai un fait curieux, tout récent. Ce n'est pas à dire que M. Durosoir prétendit à des succès de beau diseur. C'était même à son insu que tant d'oreilles l'écoutaient. Une fois engagé dans son récit, la difficulté de rappeler ses souvenirs, d'enchaîner ses idées et de trouver ses expressions lui donnait un travail qu'il absorbait complètement et lui ôtait jusqu'à la faculté de percevoir ce qui se passait autour de lui. Il semblait que ce fût tout simplement un greffier devant la cour, récitant de mémoire un acte d'accusation. Voici. Le locataire d'une grande maison, sombre, misérable, du 12e arrondissement, vieillard de 75 ans, du nom de Lequen, n'avait pas été vu de ses voisins depuis plusieurs jours. Accompagné d'agents et d'un serrurier, le commissaire de police du dit arrondissement se rendit sur les lieux et procédait à une enquête. La serrure fut forcée. On trouva en entrant la clé à terre, près de la porte, à la vue d'un cadavre déjà en décomposition. De deux réchauds éteints, on fut convaincu sur le champ que Lequen s'était suicidé. Ce qui ajouta à cette conviction fut que dans la chambre tout témoignait d'un horrible dénuement. Il n'y avait au reste qu'une opinion sur ce vieillard, inscrit au bureau de bienfaisance, vivant d'aumône, au su et au vu de tout le monde, d'un extérieur sordide, d'un caractère défiant et taciturne, il n'inspirait pas le moindre intérêt. Sa famille, s'il en avait une, n'était pas connue. On le transporta à la morgue, personne ne vint l'y réclamer, il n'en fut pas autrement question. Clément voulut évidemment empêcher M. Durosoir d'aller plus loin. De l'air d'un homme qui n'a pas la tête saine, il se leva tout d'une pièce, marcha rapidement et bruyamment au travers de ses convives, au risque d'en heurter quelques-uns, demanda un verre d'eau à haute voix, d'un ton brusque, puis se tourna vers le pianiste et le pria de jouer quelque chose. Mais il ne causa que de la surprise et ne troubla que momentanément l'attention qu'on prêtait au conteur. Fasciné, en quelque sorte, par les regards qui semblaient lui demander compte de son tapage, il courba la tête et revint soucieux, consterné, s'asseoir auprès de son ami, tandis que l'imperturbable juge reprenait. Deux années plus tard, une femme plus que sexagénaire demeura rue Saint-Jacques et bien connue aux alentours sous le nom de Mère Durand, était étranglée et volée à 3 heures de l'après-midi dans une chambre qui n'était séparée que par une cloison d'une boutique où l'on venait manger à toute heure du jour. La vitrine de la rue n'avait point de rideau. Du dehors, on voyait le comptoir à gauche, les fourneaux à droite, plus loin se dressaient les tables. Sur le feu des fourneaux, les marmites exhalaient leurs odeurs habituelles. Des clients attendaient la maîtresse du logis et s'impatientaient de ne pas la voir. Las d'appeler et de frapper les verres de leurs couteaux, deux d'entre eux allèrent questionner l'épicier voisin sur l'absence prolongée de l'hôtesse. L'épicier présuma que la vieille femme avait été prise d'une indisposition subite dans sa chambre du fond. Plus hardi que les ouvriers, il pénétra dans cette chambre et y trouva, effectivement, la pauvre vieille renversée à terre et ne donnant plus aucun signe de vie. À l'une de ses mains pendait un trousseau de clés, de l'autre elle serrait une pièce de 20 francs, et la direction de son corps indiquait qu'au moment de sa chute, elle se disposait à ouvrir son armoire. Pendant qu'un autre voisin, pâtissier de son état, se chargeait d'éteindre les fourneaux, on courut chercher un médecin. Il en vint deux successivement. Le premier jeta un coup d'œil hâtif sur le cadavre et déclara aussitôt qu'elle était morte d'apoplexie foudroyante. Mais l'autre, moins pressé ou plus consciencieux, à la suite d'un examen attentif, constata à la figure et à la gorge des traces de violence et affirma que cette vieille femme avait péri par la strangulation. Une instruction suivit. Le magistrat à cet endroit fit une pause pour reprendre haleine. Il s'établit un silence à faire supposer qu'un cauchemar oppressait toutes les poitrines. On put du moins mesurer la vivacité de l'intérêt et de l'impression que causait M. du Rozoir. Mille francs, poursuivit-il, avaient disparu de l'armoire de la vieille femme. Un sarrau en toile bleue, trouvé sur le théâtre du crime, témoignait du passage de l'assassin et du voleur. Les deux voisins, l'épicier et le pâtissier, mandés au parquet, donnèrent le signalement d'un individu aux allures suspectes qui, dans l'établissement, à l'heure où l'on découvrait le cadavre, élevait la voix et demandait d'un ton brutal si on ne lui donnerait pas bientôt à manger. Les témoins à qui cet homme était inconnu avaient tous deux été frappés de la dureté de ses traits et de son accoutrement. Sa casquette en velours jaunâtre à côte, sa veste en drap roux, son pantalon à raies étaient encore devant leurs yeux. Ce signalement fut transmis aux agents de la police de sûreté qui, sans perdre un instant, se mirent en campagne. Disséminé dans les cabarets du voisinage, il ne tardait pas à mettre la main sur un individu exactement semblable à celui qu'on leur avait signalé. Les témoins avec qui il fut confronté crurent en effet le reconnaître, mais non sans faire quelques réserves. Il marqua au reste une extrême surprise, se défendit énergiquement du crime dont on le soupçonnait, et se montra parfaitement rassuré sur les suites de l'affaire. Toutes ses réponses furent précises, catégoriques. Il s'appelait Ban, il était marié, il travaillait chez un corroyeur et demeurait rue des Noyers. Une descente eut lieu dans son domicile, tout y respirait l'aisance. On y trouva de suspect qu'une somme de 400 et quelques francs cachée sous le linge d'un tiroir. La femme, d'abord émue de ces perquisitions, répondit toutefois sans balancer que cet argent représentait leurs économies. Ban fit une réponse identique. En même temps que des agents répandus dans les environs prenaient des renseignements sur les deux époux, le patron de Ban était questionné et l'on apprenait d'une part que ceux-ci vivaient dans l'abondance, qu'ils ne se refusaient rien, payaient tout comptant, et de l'autre que Ban travaillait tout au plus 4 jours par semaine et gagnait au maximum 4 francs par jour. Il était donc au moins surprenant qu'il eût réalisé d'aussi grosses économies. Après cela, on ne pouvait pas non plus augurer de son passé par le présent et conclure de ce qu'il travaillait peu aujourd'hui qu'il n'eût pas jadis travaillé beaucoup. D'ailleurs, le témoignage des témoins relatif à l'identité du personnage était plus que jamais indécis. Finalement, Ban prouva un alibi et fut relâché. Max, dont les regards ne discontinuaient pas d'aller de Clément à Rosalie, les voyait actuellement suivre avec une tension d'esprit excessive ces détails de cour d'assises qui produisaient, notamment sur Rosalie, des impressions poignantes qu'elle essayait vainement de dominer. L'inquiétude, la douleur, l'épouvante devenait à chaque instant plus visible sur son visage. Il arrive fréquemment en justice, ajouta M. du Rozoir, qu'un homme est renvoyé d'une accusation sans que pour cela il soit absolument innocenté à nos yeux. Attendu que Ban ne m'avait nullement satisfait sur l'origine de sa petite fortune, j'étais bien décidé à ne pas le perdre tout de suite de vue. jugeait d'un procédé bien simple. Pendant plusieurs mois, sans qu'il s'en doutât, je fis tenir un journal exact, quotidien, de l'emploi de ses journées, de ses heures de travail et de ses dépenses. Quand, vérification faite de son actif et de son passif, il fut raisonnable de croire à l'épuisement de ses ressources, je tombai chez lui à l'improviste. J'eus quelque peine à cacher mon étonnement. À la découverte, dans le même meuble, dans le même tiroir, à la même place, d'une somme plus élevée que la première de 2 ou 3 pièces d'or. Les époux, cette fois encore, me répondirent « Ce sont nos économies !» Mais, séance tenante, mon procès-verbal à la main, je les fis pâlir tous les deux avec mes calculs. Ban avait travaillé tant d'heures, touché tant et dépensé beaucoup plus qu'il n'avait gagné. Donc, rigoureusement, à moins que 2 et 2 ne fissent plus 4, non seulement ils ne devaient pas avoir d'économie, mais il fallait encore forcément qu'ils eussent des dettes. La femme ne sut que répondre, tandis que son mari, plus ingénieux, prétendit bientôt être rentré dans des fonds prêtés. À qui ? Un camarade. Son nom ? Il en inventa un. Où est-il ? En voyage. C'était dérisoire. Cependant, je savais aussi que dans le temps qu'on l'avait surveillé, mon homme n'avait non plus commis aucun méfait. Partant de là, où la logique n'était plus la logique, ou, sans chercher plus loin, Ban, dans la chambre même où je me trouvais, devait avoir quelque part une mine d'argent, plus ou moins inépuisable. Je donnai l'ordre de mettre les tiroirs sans dessus-dessous, de fouiller les matelas, de déplacer tous les meubles, et j'eus l'indicible satisfaction de constater que mes prévisions étaient justes. Dans un panneau de la boiserie, masqué en cet endroit par une lourde commode, avait été grossièrement pratiquée une petite cachette, au fond de laquelle gisait une somme de 9 000 francs à peu près, partie en or, partie en billets de banque. Clément avait les apparences d'une figure en cire ou encore d'une statue peinte. Rosalie devenait livide et paraissait lutter contre un malaise mortel. On voyait de temps à autre Madame Tillard se pencher vers elle avec inquiétude et s'informer de son état. Arrêtez tous deux et mis séparément au secret, reprit le magistrat à la suite d'une nouvelle halte. Le mari et la femme se renfermèrent longtemps dans un silence absolu. La femme, toutefois, n'était pas de bronze comme son mari. Dans la solitude, sa fermeté fléchit peu à peu. 2 mois n'étaient pas écoulés qu'elle tombait sérieusement malade. Sur ma recommandation, on lui prodigua les soins et l'aumônier de la prison la visita souvent. Le remords, qui entamait enfin l'endurcissement de cette malheureuse, occasionnait en elle des luttes terribles. Dans la prostration du désespoir, elle suffoquait parfois de sanglots et emplissait sa cellule de plaintes déchirantes. À voir ses traits décomposés, ses yeux caves, son amaigrissement, je commençais à craindre qu'elle n'emportât son secret dans la tombe, quand, un jour où j'y pensais le moins, m'ayant fait appeler, elle me révéla avec des flots de larmes et les marques d'un profond repentir, ce que, certes, je ne m'attendais guère à savoir. Pendant que d'un côté, Rosalie oscillait convulsivement, comme si des serpents lui eussent rongé les entrailles. De l'autre, une agitation comparable à un feu souterrain se manifestait à cette heure chez Clément et paraissait sur le point de le faire éclater. Près de conclure, M. du Rozoir ajoutait à l'effet de son dénouement par un accent plus ferme et quelques gestes pathétiques. Il dit:
Vous présumez, sans doute comme moi-même, je l'avais cru jusqu'à ce jour, que Bade avait trempé dans le crime de la rue Saint-Jacques. Là est l'erreur. Il n'avait rien de commun avec l'assassin de la vieille femme. Souvenez-vous cependant du vieillard dont la mort avait été mise sur le compte d'un suicide. C'était un avare. L'histoire en est fort commune. Sa mendicité ostensible avait pour double but de défendre un petit trésor et de l'accroître. Ban et sa femme étaient ses voisins. Un léger bruit métallique qui plusieurs fois la nuit avait retenti chez Lequen et attiré leur attention avait éveillé en eux une convoitise indomptable. Le crime semblait à ce point aisé qu'ils le cédèrent à la tentation. La femme, étant parvenue à apprivoiser l'avare jusqu'à lui faire accepter de temps en temps un bouillon ou un verre de tisane, lui servit un soir en dissolution dans un liquide quelconque un narcotique puissant. Le mari et la femme profitèrent du sommeil léthargique de Lequen pour pénétrer chez lui, enlever le trésor qu'il cachait dans un coin de son matelas, boucher toutes les issues et allumer deux fourneaux. Ils étaient ensuite sortis, avaient tourné deux fois la clé dans la serrure et avaient glissé cette clé sous la porte. Vous prévoyez le reste. Mais que dire du hasard? Est-ce trop que d'y joindre l'épithète providentielle? 2 années avaient passé sur ce crime. Il n'y avait pas apparence qu'on dût jamais le découvrir. Dans le nombre des criminels, on en conviendra, Ban flut plus raisonnablement que pas un pouvait se flatter de l'impunité. Eh bien non. Il fallait que par l'enchaînement des circonstances les plus singulières, il fût arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis et convaincu d'un assassinat qui semblait devoir échapper toujours à la justice des hommes.
« Oh, mon Dieu !» s'écria Madame Tillard sur ce dernier mot. « Madame Rosalie se trouve mal !»
En effet, Rosalie, blanche à faire peur, fermant les yeux, inclinant la tête, s'affaissait sur elle-même et offrait ainsi tous les symptômes de la mort. Clément bondit. D'un trait, il fendit les groupes qui se pressaient autour de sa femme, la souleva dans ses bras comme il eût fait d'un liège, et se précipita dans sa chambre à coucher en faisant signe impérieusement qu'il ne voulait pas être suivi. La réunion, actuellement, était enveloppée comme d'une gaze noire. Les uns et les autres ne croyaient pouvoir moins faire que de s'entre-regarder d'un air contristé. Le juge d'instruction, surtout, qui craignait d'avoir provoqué ce douloureux incident, marquait une désolation sincère. La porte de la chambre à coucher ne roula pas plutôt sur ses gonds qu'il y courut. Peu s'en fallut qu'il ne heurtât Clément, qui rentrait seul. Ces deux hommes s'arrêtèrent simultanément devant l'un devant l'autre. Immobile, roide, muet, à l'instar de deux automates, ils se regardèrent quelques instants au visage, dans les yeux. Lestrois, qui les voyait tous deux de profil, observa avec un âpre intérêt le jeu étrange du masque de Clément. Son œil, grand et fixe, était plein d'épouvante. Les ailes de ses narines se dilataient à se rompre. Il serrait les mâchoires et les faisait craquer. Enfin, l'eau suintait au travers de sa chair, et si robuste qu'il fût, on eût dit qu'il allait tomber de faiblesse. Mais, sans qu'il s'en doutât, le verre éclatant de ses lunettes dérobait les angoisses auxquelles il était en proie à ceux qui le considéraient de face. Il est au moins certain que M. du Rozoir a été loin d'avoir une pensée d'acquisition quelconque. Son inquiétude au sujet de Rosalie le troublait et lui fermait momentanément la bouche. 15 secondes tout au plus, et il retrouvait la parole pour demander d'un air de compassion. « Eh bien, comment va Madame Rosalie ?»«
Mieux, » répondit Clément en aspirant l'air à plein poumon.
« Oh, la longueur de cette soirée, ajouta-t-il, la chaleur qu'il fait ici l'ont accablé. Actuellement, elle dort. Demain, elle n'y pensera plus. »
Malgré ces paroles rassurantes, le vide se fit rapidement dans le salon. D'un groupe bruyant qui sortait, s'échappa cette parole « Oh, il faut pas parler de cordes dans la maison d'un pendu !»
De qui parle-t-il ? » fit Clément en se retournant d'un air effrayé du côté de Max.
Les quelques jeunes gens qui restaient ne tardèrent pas à se retirer. Clément dit à Destroit
« As-tu jamais vu un homme plus infatué de son état que ce monsieur du Rosoir ? Que penses-tu de sa providence qui tue une pauvre vieille pour aider à découvrir l'assassin d'un vieil homme ?»
Disant cela, il affectait de sourire. « Clément, dit Max d'un air de profonde tristesse, avoue au moins que ce soir, tu as horriblement souffert. »«
C'est pas vrai !» répliqua Clément avec violence. « Pourquoi ? Que me fait cette sotte histoire ? D'ailleurs, pour peu que cela me plaise, j'ai une volonté à mourir de volupté dans la douleur. »
« Je ne veux pas souffrir.
Je ne souffrirai jamais. »